nous avons vu les deux derniers cours, qu'il n'y a pas de principe métaphysique, c'est-à-dire au niveau de l'être, il n'y a pas de principe matériel de l'être. Et ceci est très important dans notre monde d'aujourd'hui. Plus important que dans le monde grec du temps d'Aristote. Les Grecs étaient plus spirituels que nous. Que nous, de façon générale. Parce que nous sommes très pris par la science mathématique, qui est une science propre de l'homme. Elle n'est pas du tout angélique. Parlez à votre ange gardien des mathématiques. Vous verrez ce qu'il vous dira. Or, nous sommes très pris par les sciences mathématiques qui développent en l'homme quelque chose d'extrêmement intéressant, l'alliance de l'intelligence et de l'imagination, ce qui est typiquement humain, mais aussi qui nous maintient en dehors de l'être existant. Nous sommes toujours en face d'un être virtuel créé par l'homme. Vous comprenez, la tentation permanente d'être semblable à Dieu, de faire comme lui. Il crée, créons. Mais qu'est-ce qu'on peut créer ? Il faut se poser nous-mêmes des problèmes, il faut. Parce qu'au fond, c'est la tentation générale de l'humanité, c'est de faire comme Dieu. Vous serez comme Dieu, c'est la première tentation, il ne faut pas l'oublier. Et elle est enracinée en nous. Alors de faire comme Dieu, c'est d'être au-dessus de ce qui est. C'est d'inventer quelque chose qui est seulement de nous. Et nous inventons ce point de vue d'un être virtuel qui est fils de notre imagination et de notre intelligence, liée à l'imagination, liée au divisible. C'est le divisible qui devient intelligible. J'insiste parce qu'au fond, la très grande difficulté, c'est le dépassement de la métaphysique par rapport aux mathématiques. Ça, c'est la très grande difficulté. Pour nous spécialement, pour nous, de notre siècle, la très grande difficulté, c'est ça. C'est de comprendre que les mathématiques ne sont pas premières. Elles sont premières humainement pour l'homme. Tout ce qui est humain a comme mesure les mathématiques. Tout ce qui est humain. Tout ce qui est humain peut être dirigé par les mathématiques. Peut être sous le joug mathématique. Sauf l'humain qui est sagesse, alors qui dépasse les mathématiques et qui touche l'être. Donc, la saisie de l'être, pour nous, la grosse difficulté, ce sont les mathématiques qui nous arrêtent. C'est pour ça que c'est très intéressant de réfléchir sur ce qu'est l'être mathématique. les articles du père Gérard Delaurier peuvent être très intéressants pour ça, quand il parle justement de ce que c'est que l'être mathématique. L'être, à la différence de l'être en tant qu'être. Oui, alors vous comprenez la parole d'Aristote, le toon et on. Le toon, ce qui est en tant qu'être. Si vous ne mettez pas ce qui est en tant qu'être, l'être mathématique ne peut pas être saisi. L'être mathématique, ce n'est pas la saisie de ce qui est en tant qu'être, c'est la saisie de ce qui est sous le point de vue mathématique, sous le point de vue du divisible, de l'intelligence liée à l'imaginaire. C'est le divisible. Vous séparez le divisible de la substance, vous séparez le divisible des qualités propres, et vous avez le fondement radical de tout ce qui est au niveau physique. C'est là la grande attraction. Alors, il n'y a pas de premier au niveau de l'être, dans le sens mathématique et dans le sens matériel. Donc, je cherche ce qui est premier dans l'être au niveau de la détermination. La première interrogation, quand je dis qu'est-ce que l'être en tant qu'être ? Et c'est cette interrogation qui doit toujours être présente à notre intelligence. Qu'est-ce que... Il faut que pour chacun d'entre vous, ce qui est en tant qu'être au point de vue détermination, ça représente quelque chose de vous. Tant que ça ne représente rien, vous devez y revenir tout le temps. C'est passé comme un truc, ça. On avance au point de vue philosophique, comme au point de vue scientifique, du reste. On avance que grâce à l'interrogation. Si on n'a pas d'interrogation, on répète. Alors, répéter le cours métaphysique, ça ne vaut pas la peine. Découvrir le cours métaphysique, ah, ça, c'est très important. Parce que vous n'entrerez en théologie que le jour où vous aurez compris ce qu'est la métaphysique, l'encyclique, la dernière du pape, du moins la dernière sur ce sujet, l'encyclique du pape, Foi et raison, nous montre cela d'une façon très nette. Je ne peux pas faire une théologie mathématique. Ça s'est déjà fait au XIVe siècle. Et il y a toujours une tentation. Ça a été la grande tentation du père Gérard Delaurier. Faire une théologie mathématique. Vous comprenez ? Pauvre théologie. Parce que tout être, point de vue mathématique, doit être divisible. Or, l'âme n'est pas divisible. Donc, je ne peux pas saisir l'âme. L'âme ne peut pas être mesurée par les mathématiques. L'âme est en une réalité spirituelle. Elle ne peut pas être mesurée par la quantité, par le divisible. Donc, je ne peux pas dépasser l'être quantifié. Il faut, je crois, ceci, le découvrir soi-même. Je peux vous dire, posez-vous la question, mais c'est vous, c'est votre intelligence qui doit découvrir la réalité. Ce n'est pas mon intelligence qui la découvre pour vous. C'est impossible, ça. C'est ce que le père Dou me rappelait toujours, ce vieux professeur de philosophie, qui leur disait « Je peux bien vous donner l'intelligible, mais pas l'intelligence. » Et c'est assez juste. Je peux vous donner l'intelligible en disant « Il y a un dépassement métaphysique qui est long à faire. » Aristote considérait qu'il fallait au moins avoir 40 ans pour le faire. Donc on était 30 ans, 20 ans, on était trop lié au point de vue sensible, on était trop lié à l'imagination. Il fallait que les passions soient basses. Alors, c'est vrai, je crois, pour un païen, pour celui qui a la révélation, donc pour celui qui a la foi nous rend beaucoup plus intelligents, au point de vue métaphysique, puisqu'elle nous permet d'avoir une connaissance supra-métaphysique. Alors, si on a une connaissance supra-métaphysique, c'est plus facile de descendre un étage que de le monter. Quand on a monté l'étage, en dessous, il y a les métaphysiques. En dessous de la foi, il y a les métaphysiques. Il y a un tremplin. Vous ne dégringolez pas tout de suite par terre. Vous êtes un être supraterrestre. Le métaphysicien est un être supraterrestre, mais il n'est pas un être céleste. Tandis que par la foi, par la grâce, vous êtes un être céleste. Alors étant un être céleste, on peut plus facilement descendre à la métaphysique. C'est pour ça qu'un chrétien qui est habitué à sa vie de foi et qui vit sa vie de foi, c'est beaucoup plus facile d'être métaphysicien. Il ne se sert pas directement de sa foi. La foi ne me fait pas découvrir la métaphysique. Hein. Dites-vous bien ça, ne dites pas que je dis que la foi fait découvrir la métaphysique. Non, non, c'est votre intelligence qui découvre la métaphysique. Mais votre âme et votre intelligence étant habituées au surnaturel, vit dans une zone supraterrestre. La foi me fait vivre d'éternité. Ma foi me fait vivre pour l'éternité. La foi m'empêche de rester fixé au terrestre. Je suis fait pour l'éternité. Le croyant, c'est le croyant, ça. Et le croyant dit ça depuis qu'il a l'âge de 7 ans. Alors vous comprenez, c'est plus facile pour un croyant qui vit sa foi, donc pour un novice qui vit sa foi. Un novice qui vit sa foi, on peut lui dire, c'est très bien, votre intelligence par la foi est surnaturalisé. Votre intelligence, par la foi, adhère à des réalités qui sont supraterrestres. Vous êtes habitué, par la foi et l'espérance, à vivre du divin. Le divin, c'est un être supérieur à tous les autres êtres. C'est un être qui est pur, d'une pureté spirituelle absolue, qui n'a rien de matériel. Le divin a assumé le corps humain dans le mystère du Christ. Mais le mystère du Christ, assumant le corps humain, n'a pas matérialisé le divin, n'a pas humanisé le divin. Parce que pour beaucoup de chrétiens, hélas, c'est qu'ils croient ça, que l'incarnation a transformé l'humain, et non seulement a transformé l'humain, mais a fait que le divin devenait humain. Vous savez bien, il y a une hérésie comme celle-là, et cette hérésie, elle risque tout le temps d'exister, parce que je crois que c'est l'hérésie du marxisme, c'est l'hérésie du positivisme, c'est que ce qui est merveilleux, c'est que le divin a rendu éternel le temporel. C'est vrai, avec la glorification des corps, a rendu éternel le temporel. Mais on ne s'arrête pas là, on remonte à la cause de ça. Et c'est la grâce qui fait ça. Et donc, c'est l'être divin qui est en moi. Et l'être divin assume. L'être divin fait que tout le temporel, tout l'humain est toujours relatif. Il n'est jamais l'absolu. Il est toujours relatif. Donc, il est ce qui me permet de monter plus haut. Et quand je suis monté plus haut par la foi, c'est plus facile de regarder le métaphysique, l'être en tant qu'être. Parce que le divin, c'est de l'être, mais un être divin. Alors, un être divin est plus que l'être humain. Et plus que l'être en tant qu'être. Il est divin. Il a un mode supérieur à l'être. Un mode divin. Le divin est supérieur à l'être. Il est être, mais il est supérieur à l'être. Vous voyez, comme le mouvement de l'être physique est de l'être, mais il n'est pas l'être. Mais il est de l'être. Et il faut vous habituer à jouer comme ça. Parce que ça permet de saisir ce qu'il y a de tout à fait particulier à la métaphysique. C'est saisir cette zone d'intelligibilité tout à fait particulière qui est fondé sur l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être est ce qu'il y a de plus intelligible pour moi, pour mon intelligence humaine, pas pour ma foi. L'être en tant qu'être est moins intelligible que l'être divin. Donc ma foi qui atteint l'être divin atteint quelque chose de plus profond, de plus intelligible que ma métaphysique. Et c'est dans ce sens-là où ma métaphysique peut être au service de la foi. Je suis toujours au service d'un supérieur. Être au service d'un inférieur risque toujours de me faire dégringoler. Vous voyez ? C'est toujours pour arriver à saisir parce que ce n'est pas commode, à saisir le sens de luto-on et on, ce qui est en tant qu'être. C'est à ce niveau-là. Bon. Il n'y a pas de premier dans l'ordre du premier pour l'être, dans l'ordre du devenir, dans l'ordre physique, dans l'ordre sensible, dans l'ordre des réalités que je touche et que je vois. Vous n'avez jamais touché l'être en tant qu'être. Dites-vous bien ça, vous n'avez jamais touché l'être en tant qu'être. Mais quand vous avez touché un crapaud, vous avez touché un être existant, une petite bête. Et quand vous avez touché votre main, vous touchez une grosse bête, beaucoup plus intelligente que le crapaud. Bien sûr, mais vous n'avez pas touché l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être, c'est l'intelligence qui saisit ça. Ce n'est pas le sens, ce n'est pas l'imaginaire. C'est le dépassement du sensible, c'est le dépassement de l'imaginaire pour saisir l'être en tant qu'être. Et saisir le premier de l'être en tant qu'être, c'est cela que cherche en premier lieu la métaphysique. Donc, cette interrogation, qu'est-ce l'être en tant qu'être? Sa détermination, sa cause formelle. Quelle est la cause formelle de l'être en tant qu'être? Alors, vous voyez, l'effort que ça exige de nous, l'effort de notre intelligence, déjà pas commode de saisir l'être en tant qu'être, et dans l'être en tant qu'être, saisir le premier du côté de la détermination, sa cause formelle. La cause formelle, c'est le premier dans l'ordre de la détermination. Qu'est-ce qui, dans l'être en tant qu'être, détermine l'être en tant qu'être et le détermine fondamentalement. J'insiste, hein, parce que si mon interrogation n'est pas nette, je ne découvrirai jamais ce que c'est que la substance. Il faut donc, premier stade, que mon interrogation soit très claire. Je m'interroge pour me demander quelle est cette détermination de ce qui est en tant qu'être. Alors, puisque c'est difficile, je vais montrer tout ce qui n'est pas la réponse à cette interrogation. Les déterminations de la réalité physique, les déterminations de la réalité humaine, puisque dans le monde physique, ce qui est le plus parfait, c'est l'homme. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Supraterrestre, j'en ai pas l'expérience. Ils peuvent exister, très bien, j'en ai pas l'expérience. La seule expérience de l'être le plus parfait que j'ai, c'est moi-même. C'est de l'être, c'est l'autre, c'est l'ami. Vous voyez l'importance de l'ami. Parce que C'est la réalité la plus intéressante que je constate, que je peux expérimenter. La réalité la plus importante que je peux constater, que je peux expérimenter, qui me répond, c'est l'ami. Parce que grâce à l'amitié, il me répond. Tandis que l'Himalaya ne me répond pas. Je constate, là, qu'est-ce que tu es, Himalaya ? C'est massif. Et c'est lourd. Et c'est difficile à connaître. Peu de personnes ont monté jusqu'en haut. Et quand ils ont monté jusqu'en haut, ils ont dit, ce n'est que ça. Je ne peux pas monter plus haut. Et c'est vrai, c'est limité. Quantitativement, c'est massif. C'est sûr, c'est quelque chose de géant. Mais rien après. La métaphysique, le regard du métaphysicien en face de l'Himalaya va beaucoup plus loin que l'Himalaya. Il va jusqu'à Dieu. Tandis que si vous montez sur l'Himalaya, et vous restez encore le pied sur la terre. S'il y avait une cause matérielle de l'être, la connaissance de l'Himalaya serait absolument nécessaire. Donc nous serions métaphysiciens qu'ayant fait l'expédition, non pas d'Odan, mais l'expédition à pied de l'Himalaya. Première année. Nous avions en tête la grandeur de l'Himalaya. Alors on étudierait l'Himalaya pour étudier cet être géant. Quand je dis que la métaphysique est au-dessus de la matière, l'Himalaya ne fait pas connaître la métaphysique. Ni la Lune, un petit voyage sur la Lune, ça n'avance en rien la métaphysique. Au point de vue connaissance de la matière, ah oui, c'est très intéressant. Une connaissance de la matière, parce que je suis en face d'un monde où il n'y a pas la vie. Tandis que toutes les expériences que j'ai sont toujours auprès d'un vivant. Et ça, c'est très fameux, parce que je risque de projeter sur un être non vivant ce qu'est le vivant. Je risque de connaître le monde physique en fonction du monde vivant, et non pas pour lui-même. Alors que, avant la vie, il y a l'être physique. Et donc l'être physique doit être connu pour lui-même. Il a son intelligibilité propre. Matière, forme. C'est génial d'avoir découvert ça. Matière, forme. Je ne connais la matière, je ne connais pas la matière par l'être vivant. Alors que, au point de vue de la phénoménologie, vous connaissez votre corps uniquement par le vivant, ce qui est faux. Connaître la matière uniquement à travers le vivant, ce n'est pas connaître la matière. La matière se découvre par la forme objectivement. De sorte que j'ai une connaissance de la matière extrêmement pauvre. Je suis enveloppé de la matière. La matière risque toujours de m'étouffer. Je suis enveloppé de la matière. Parce que ma respiration, c'est encore quelque chose de matériel. et elle doit être connue pour elle-même, au point de vue philosophique. C'est-à-dire par la forme. Je connais la matière par la forme. En disant, elle n'est pas la forme. Elle est la détermination. La forme, c'est la détermination de la matière. Et donc, je me pose la question, quelle est la détermination de l'être ? Pas de la matière, mais de l'être. De ce qui est en tant qu'être. Puisqu'il n'y a pas de matière, il y a une détermination. Une détermination première. Parmi toutes les déterminations, c'est la détermination première qui commande à toutes les autres déterminations. Et donc, pour atteindre cette première détermination, je regarde les déterminations que je peux connaître directement. Quelles sont les déterminations que je peux connaître directement ? C'est toutes celles qui regardent le corps humain. Toutes les déterminations du corps humain, c'est les déterminations les plus parfaites. Nous sommes une réalité plus parfaite que l'Himalaya. Hein ? Vous êtes d'accord là-dessus ? Chacun d'entre vous et un petit enfant est une détermination plus parfaite que l'Himalaya. C'est donc les déterminations humaines que je regarde en premier lieu en métaphysique. La métaphysique s'intéresse à l'homme parce que ce n'est que l'homme qui peut me permettre de connaître ce qui est l'être en tant qu'être. Ce n'est pas la vache. Ce n'est pas le crapaud, ce n'est pas la lune. La lune ne m'apporte rien pour la connaissance de l'être en tant qu'être. C'est pour ça que je ne vous demande pas de faire le petit voyage du cosmonaute. Faire l'ascension de l'Himalaya n'ajoute rien à la connaissance de l'être en tant qu'être. Ça ajoute sûrement des tas de choses au point de vue vision, au point de vue toucher, sûrement. Mais rien au point de vue d'être en fait. Alors, pour mieux connaître la détermination première de l'être, ce qu'est cette première détermination, quelle est la première détermination de l'être ? Je regarde toutes les déterminations de l'homme et je vois que ces déterminations, premièrement, les déterminations extrinsèques à l'homme. Quelles sont les déterminations extrinsèques à l'homme ? C'est le lieu, c'est le temps. Nous sommes nés à telle date, nous sommes nés à tel endroit. Bon, ces déterminations secondaires de l'être sont très accidentelles. Elles regardent mon être, c'est très vrai. Jusqu'à la fin de mes jours, je serai né à tel endroit. Jusqu'à la fin de mes jours, je serai existant. Tel siècle. Connaître pour moi le Moyen-Âge, c'est intéressant, c'est très intéressant, mais ça ne me donne absolument aucune connaissance nouvelle de l'être en tant qu'être. C'est pour ça que la découverte de l'être en tant qu'être d'Aristote, bien que ce soit avant le christianisme, bien que ce soit en Grèce, c'est pour l'homme. Ça intéresse l'homme. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et si on n'arrive pas à comprendre ça, on restera au niveau historique. Vous voyez, des quantités de philosophes étudient Aristote en historien. Or, étudier Aristote en historien, ce n'est pas étudier Aristote philosophe. Ça aussi, c'est très important. Étudier Aristote historien, c'est de voir comparativement à ceux qui sont avant lui, comparativement à ceux qui sont après lui, ce qu'il a dit et ce qu'il n'a pas dit. C'est très intéressant. Mais c'est une connaissance humaine. C'est toujours Aristote que je regarde. Donc cet homme qui a vécu à tel endroit, qui s'est marié, qui a eu des enfants, et qui a écrit. Et grâce à Dieu, il y a encore des écrits qui restent. On n'a pas tout découvert. Puisque dans la table des livres qu'il a écrits, il y a des livres qu'on n'a pas. Le Peri Touteou, le livre sur Dieu. Ça aurait été intéressant. On l'a pas. Peut-être qu'il l'a jamais écrit, mais c'est déjà beaucoup de savoir que c'était dans le désir de l'écrire qu'il avait un désir d'écrire un livre Peri Touteou. Il y a le Péripsuchès, le livre sur l'âme. Il a écrit un livre sur l'âme, c'est très intéressant. Il a écrit un livre sur Dieu, on l'a pas. Si vous le découvrez, vous serez quelqu'un de très intéressant. Et mondialement, vous serez quelqu'un de très intéressant. Tandis que de découvrir l'être en tant qu'être, c'est pas ça qui vous rend intéressant. Assez curieux. Alors que c'est beaucoup plus intelligent de découvrir l'être en tant qu'être, que de découvrir Aristote, auteur du Peri Touteou. Vous voyez, connaissance métaphysique, connaissance historique. C'est très important d'arriver à distinguer les deux. Et si on n'arrive pas à distinguer les deux, il faut à tout prix y arriver. Alors vous devez demander là à ceux qui ont déjà découvert ça, de vous mettre sur la piste. Parce que notre civilisation, je parle de notre civilisation actuelle, est très sensible à l'histoire, les documents. Très sensible au musée. Vous voyez ce que Malraux dit sur l'invention du musée. L'invention des musées, c'est une civilisation qui ne se contente plus d'inventer. C'est une civilisation qui aime de regarder ce qui est avant elle. C'est très bien, mais c'est une civilisation qui vieillit. Les musées font vieillir notre civilisation. Et appesantir, c'est très lourd. Et c'est le danger du vieillissement. Vieillir fait qu'il y a tout un poids de vie qu'on a à porter et à le dépasser. On le dépasse en cherchant l'être en tant qu'être. L'être en tant qu'être, c'est pas l'être que j'ai connu, l'être qui est mon histoire, c'est un être qui est mon histoire, c'est très intéressant sans doute pour un individu, pour une personne, mais ce n'est pas la métaphysique. Alors, ça aussi c'est très important de distinguer la métaphysique de l'histoire. L'histoire est une science. jamais de une sagesse. Pourquoi? Parce que c'est une science de l'humain. Et la sagesse, c'est atteindre ce qu'il y a de surhumain. Le premier Dieu. Dieu n'est pas dans l'histoire. Dieu est au-delà de l'histoire. Il est premier. Donc l'histoire ne sera jamais sagesse. Et l'histoire ne fera jamais découvrir la détermination de l'être en tant qu'être. On peut connaître Aristote en tant qu'historien, on peut le connaître en tant que philosophe. Et aujourd'hui, on ne reconnaît que le livre sur Aristote qui est historique. Connaître Aristote en tant que philosophe, il faut être philosophe de ce qui est en tant qu'être, en même temps que lui. Autrement, on le ramène à sa propre connaissance. Connaître ce qu'Aristote dit, la métaphysique, c'est connaître l'être en tant qu'être, le toon. Il faut soi-même avoir saisi le toon, ce qui est en tant qu'être, en tant qu'être. Il faut le saisir pour que, en répétant ce que dit Aristote, ne soit pas qu'une répétition. Ce soit ce que moi-même j'ai saisi. Et alors on le verra tout de suite. Parce que quand on a saisi uniquement, historiquement, on sera incapable de répondre à certaines affirmations qui sembleront des contradictions. Alors on dira, Aristote se contredit. Et c'est vrai, Aristote se contredit, puisque il ne dit pas la même chose en philosophie de la nature et en métaphysique. Il ne dit pas la même chose en philosophie du vivant et en philosophie de la nature. Il est très formel de saisir dans l'homme ces différents niveaux. L'homme est, premièrement, il est un élément du monde physique. L'homme est un vivant, l'homme est un être spirituel. Or, la métaphysique, c'est étudier l'être spirituel. C'est l'intelligence qui se développe pour elle-même en tant qu'elle est intelligence. L'être en tant qu'être. Vous voyez, je signale ces différents points de vue parce que, de fait, si on ne voit pas ces différents points de vue, on se trompe. C'est très important. Je saisis et je lis Aristote en tant qu'il est philosophe. Je peux le lire en tant qu'historien, je peux le lire pour le situer relativement à Platon, c'est souvent ce qu'on fait, mais le situer en face de Platon sans avoir compris ce qu'il y a de propre à Aristote, on ferait une comparaison fausse. Et on ferait une comparaison qu'Aristote mesurait 1m70, Platon mesurait 1m90. C'est de cet ordre-là. Ce n'est pas connaître Aristote, ni connaître Platon, de connaître leur poids et leur grandeur physique. Donc, je dois prendre la table des prédicaments, tous les prédicaments, Et tous les prédicaments, ce sont toutes les déterminations de l'être humain. Toutes les déterminations de l'être humain, je dois les regarder. Sont-elles une première détermination? Alors, la première chose, les déterminations extrinsèques. Le lieu et le temps. Bon, le lieu et le temps, ce n'est pas du tout la première détermination. C'est peut-être la première détermination dans l'ordre génétique, mais pas dans l'ordre de l'être. Dans l'ordre génétique, c'est vrai, je suis né à tel endroit. Ça ne bouge pas, ça. Je suis né de tels parents. Ça joue, mais c'est extrinsèque. Il peut y avoir des enfants qui dépassent de beaucoup leurs parents quant à leur taille, quant à leur intelligence. C'est sûr. Donc, les mesures extrinsèques ne me disent pas ce qui est en premier lieu. Je laisse tomber cela. Je peux voir que ça détermine. Oui, ça détermine. Il y a certains éléments qui peuvent se comprendre mieux quand on voit qu'Aristote est né à telle date. Parce qu'à cette date-là, il y avait des guerres. Donc, s'il y avait des guerres, il y avait la pénurie au point de vue matériel. Il n'y avait pas la richesse. Donc, il y avait peut-être moins tentation d'aller sur des domaines particuliers. Et c'est vrai, plus on avance, plus le milieu et le temps jouent une importance grande. C'est ça qui est très curieux aussi. C'est que le temps et le lieu avaient moins d'influence pour Platon et Aristote que pour nous. Nous sommes des êtres qui sommes beaucoup plus dépendants du temps et beaucoup plus dépendants du lieu que les anciens. Là, vous me direz pourquoi. C'est parce que les anciens, le point de vue du lieu, c'était plus limité que pour nous. Nous, le point de vue du lieu est très vite dépassé. Nous avons tous voyagé. Nous avons tous vu beaucoup de choses. Bien plus qu'un ancien. Quand je pense à cette vieille grand-mère qui, la première de sa vie, première fois de sa vie, montait dans un train. Ça n'arrive plus beaucoup aujourd'hui. Mais il y a 50 ans, ça arrivait. Première fois de sa vie qu'elle montait dans un avion. C'est quand même quelque chose de particulier, monter en avion. On a une vision des réalités totalement différente. Il y a une abstraction qui se fait automatiquement. On n'a pas besoin d'un fait. Quand vous montez, qu'est-ce que ça signifie les villages que vous voyez? Et l'individu, la personne humaine, quand vous êtes à une certaine hauteur, elle disparaît. L'homme disparaît, il ne reste plus que la maison. La maison disparaît, il ne reste plus que la cathédrale. La cathédrale disparaît, il n'y a plus rien. Les nuages. C'est très extraordinaire, cette chose-là. On n'y pense pas. Mais ça modifie énormément notre imagination. Ça la transforme d'une certaine façon. Le mode du lieu et du temps joue énormément, mais cependant ne sont pas les déterminations essentielles. Mais ça joue un rôle de plus en plus grand. l'homme du XXe siècle, l'homme du troisième millénaire, est un homme qui est beaucoup plus dépendant du lieu et du temps qu'un homme du Moyen Âge, qu'un homme né en même temps, même année, que les saints innocents. Et je crois que ça vaut la peine, ça vaut la peine d'y penser et de le voir. Métaphysiquement, c'est intéressant de voir que ce n'est pas la substance, c'est bien évident. La substance, c'est pas le lieu où je suis né. Le lieu où je suis né est pourtant quelque chose de capital qui restera toute ma vie. Et que je sois né au moment d'une guerre, durant telle guerre, c'est aussi très important. Ça joue. Premier dépassement. Dépassement du lieu et du temps. Qui sont des déterminations extrinsèques et qui ne sont pas la substance. Deuxième dépassement, quelque chose qui me touche plus, mon activité au point de vue humain, mon activité au point de vue familial, mon activité au point de vue politique. Si j'ai une certaine activité, j'ai nécessairement le contre-coup. Je souffre, je pâtis. Toute activité engendre des luttes. Il n'y a que celui qui est au-dessus de ses activités où il n'y a pas de lutte. Les jalousies farogent. Terrible. Et ça fait partie de mes déterminations. Ce sont des déterminations très importantes, mon activité, la fonction que j'ai. Et si j'en ai eu plusieurs dans ma vie, je peux les comparer et je peux voir ces diverses activités. Pour chacun d'entre nous, il y a beaucoup d'événements qui dépendent de ça. Et ça, c'est propre à chaque individu. Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons déjà vécu le vécu. Et nous avons vécu dans différents milieux. Premier milieu, milieu familial. Puis, l'oiseau s'est envolé et il a eu un autre milieu. Il s'est envolé de la famille avec plus ou moins de difficultés dans une lutte, au contraire, dans une grande paix. Et c'est vrai que c'est la première lutte, c'est ça, c'est s'envoler du nid. Et ça représente quelque chose de très important dans ta vie. Mais tout cela n'est pas encore ma première détermination, puisque c'est un sujet personnel qui agit. Et mon action, ce n'est pas moi. Très facilement, nous jugeons quelqu'un en fonction de ses activités et on fait une grave. Vous voyez, prenons toute la table des prédicaments et regardons si cette table des prédicaments, est-ce qu'elle nous donne la première détermination de ce qui est en tant qu'il est.